Alors, merci d'être là en ce dimanche midi où c'est l'heure de manger et pourtant nous avons une conférence passionnante à venir avec Vincent Kessler qui est depuis hier le lauréat du prix des Utopiales, voilà, pour Cygnis,
En compagnie de...
en compagnie d'Hugo Bellagamba, qui l'a eu également pour Tancrède. Voilà. Première question, ça fait quoi d'avoir deux prix sur les Utopiales puisque tu as eu le Julia Verlanger vendredi soir?
Ben, c'est vraiment bizarre, hein. Je ne m'attendais pas. C'était très inattendu. Et puis, je crois que je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passe. Donc, peut-être je pourrais le dire dans une ou deux semaines quand j'aurai digéré l'information. Et j'ai peu dormi.
Et ça fait quoi sur le coup d'avoir le prix, quoi?
Ah bah c'est une intense émotion, ça passe en un claquement de doigts.
Est-ce que tu pouvais imaginer quand tu as écrit Cygnis que tu aurais peut-être pas ces deux prix, mais tout du moins que tu recevrais des récompenses?
Non, non, je pensais même pas qu'il serait publié à l'origine. Je l'avais vraiment écrit pour moi et j'ai eu de gros doutes. Pendant une semaine, je me suis même dit, ouais, bah, je vais même pas l'envoyer, ça vaut pas la peine. Et puis, le fait qu'il ait été retenu, c'était déjà quelque chose d'énorme. C'était le but aussi. Et la publication, c'était un peu une fin en soi pour moi. Puis en fait, il y a la rencontre avec le public, il y a la rencontre avec d'autres auteurs, avec Jérôme Vincent sur scène. Non, mais il y a tout un monde qui s'ouvre et ça donne beaucoup d'énergie pour continuer, pour la suite. Ouais.
Peut-être que tu peux nous rappeler l'idée de base, comment tu as eu l'idée de Cygnis et de ce monde complet. Est-ce que tu te souviens des premiers éléments qui se sont mis en place? Tout du moins de ce que tu avais envie de faire et de raconter avec ce livre.
Ouais. Bah, je crois que c'était le premier chapitre, la scène d'ouverture. Est venu s'accoler à la scène d'ouverture ce texte un peu poétique qui ouvre sur l'idée de récit. Et puis c'était de cette juxtaposition de deux impressions que la chose est venue comme ça. Donc là, je me suis arrêté, j'ai écrit un scénario et puis j'ai pu enchaîner sur l'écriture de tout le livre.
C'était l'idée d'avoir un monde comme ça et du personnage, c'est venu tout de suite.
Oui, je crois que le personnage et le monde, ils sont construits en ping-pong un peu. J'avais toutes sortes de projets. C'était un premier roman, donc c'était l'envie d'essayer. Enfin, c'était pour moi, l'envie de faire des choses pour moi. Et j'avais envie d'y mettre beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, c'est un premier roman que je vais aboutir, que je vais terminer. Et l'idée, c'est d'y aller sans concession, de faire mon projet. Et donc, j'avais l'envie d'avoir ce parti pris stylistique dès le début, et aussi de convoquer beaucoup, beaucoup de mythes et de références à ce que j'aime, et puis à des images qui me parlent, autant au niveau esthétique, au niveau des idées, mais au niveau émotionnel aussi. J'ai fait un gros travail là-dessus, qui passe souvent inaperçu, d'ailleurs, dans les feedbacks, mais tant mieux. Où j'ai essayé de mettre tout un réseau de sens par métaphore à des récits mythologiques de la Grèce, de Rome, à des rites carthaginois, à des figures médiévales. Enfin, j'ai essayé de faire vraiment plein de choses comme ça. Et ça c'était vraiment l'essentiel de la construction, hein, tout ce qui irriguait le récit.
Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de tes influences? Quels sont les auteurs, les livres qui t'ont marqué? Et puis, ce que tu aimes à côté de la science-fiction.
Bah, ça, c'est une question vraiment vaste. Il y a les influences conscientes, puis il y a les influences qu'on mesure après coup. Après coup, on m'a dit, ah, ça fait penser à Nausicaa. Oui, bah, j'adore Nausicaa et j'avais pas du tout pensé en l'écrivant à ce récit. Consciemment, j'avais en tête des auteurs comme Jules César, Pline, Tite Live, Tacite. Sénèque, enfin, des auteurs de l'Antiquité, quoi. J'espérais faire quelque chose là autour. Et évidemment, pour tous les visuels post-apocalyptiques, le rapport à la nature, ben, je pense que je dois à mes lectures, à mes influences cinématographiques dans le jeu vidéo. Mais au moment de l'acte d'écriture, je m'abstrais de ça. et c'est dit, enfin, j'essaie pas de faire comme ou de penser à des références, j'essaie de tracer ma voie. Et là, il n'y a pas vraiment de référence consciente. On se rend compte des fois en lisant après coup, ah ouais, ça ressemble à ça, ah ouais, il y a ça. Bon, c'est normal en fait.
Y a rien que tu aies eu envie de mettre ou des clins d'œil que tu aies envie de faire consciemment?
Ouais, non, j'en ai fait quelques-uns au niveau stylistique, par exemple, des clins d'œil à des livres ou à des choses comme ça. Mais c'est des petits passages. Oui, ça, je me suis amusé à truffer de petits clins d'œil. Mais ce n'est pas des références sur l'ensemble du texte. C'est des références qui peuvent être très ponctuelles, celles-là, par contre.
On va peut-être parler de ton personnage, de Sean le Trappeur. Comment est-ce que toi tu le vois concrètement?
Bah, comme j'ai vu pas mal par ses yeux, et puis qu'il n'y a pas de miroir, je sais pas.
Ouais, comment est-ce que toi tu le construis? Qu'est-ce que tu avais envie de faire avec ce personnage plutôt
Mais je voulais pas trop le décrire, justement. Je voulais pas avoir les traditionnels, une barbe, des moustaches, deux yeux et une bouche. Contrairement à son pote Deck, qui lui passe par une description et d'autres personnages. Et je voulais que lui soit. Bah, quand on réfléchit en bande dessinée pour faire un projet, on réfléchit au style, à la ligne graphique, à comment on va représenter le personnage. Et puis si on suit un peu ce qu'on dit un théoricien de la BD, Scott McCloud, plus le personnage est stylisé, plus on a la capacité à s'identifier au personnage. Et je voulais que ce personnage soit une porte d'entrée aussi neutre que possible au niveau de l'apparence, pour que n'importe qui puisse se projeter dedans, qu'il n'y ait pas forcément un âge ciblé, il n'y a pas forcément une apparence ciblée, ce qui m'a posé des problèmes, parce que dans certaines situations, bah, est-ce qu'il a une barbe, une moustache, comment ça se passe? Et au final, j'ai jugé que ce n'était pas très important, qu'il pouvait, au niveau de l'apparence, s'effacer. Pour que bah, sa personnalité remplisse cet espace-là et que le lecteur puisse l'approprier. En l'occurrence, c'était pour moi.
Et justement, en termes de personnalité, comment est-ce que tu le vois? Un homme plutôt solitaire?
Ah oui, bah, un homme plutôt solitaire, plutôt bourru, qui dit pas grand-chose. Quand il est en société, il se rétracte, il n'arrive pas à s'exprimer, il sent une barrière. Il peut se lâcher un peu avec ses proches. Et puis finalement, il a toujours des relations bilatérales avec des gens. Il est en société seulement au tout début. Et après, chez les troglodytes, ben, il vit à l'écart. Donc oui, c'est un solitaire. C'est quelqu'un qui a eu une enfance dans la forêt en solo.
Est-ce que tu peux nous dresser peut-être les premières lignes de l'histoire? Il va y avoir une histoire de guerre avec des robots, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas lu Cygnis de Vincent Gasselin.
Oui, c'est une. Ça commence avec un gros hiver, puisque le climat est un peu déréglé, et donc à l'approche de la fin de l'hiver, il y a des grosses couches de neige qui s'amoncellent, et puis il hiberne. Donc c'est sa phase d'hibernation qui est entrecoupée de réveil, et puis de résine qui respire pour garder un état comateux. Et ensuite, il est avec son loup, qui est à moitié cybernétique, greffé de bandes synthétiques, entremêlées à son pelage. Et donc, les deux ont une relation très fusionnelle. Et après cet hiver, à la fonte des neiges, il sort. Et comme à chaque printemps, il y a quelques agglomérations importantes. Il faut imaginer ça un petit peu comme les forêts du Québec au XVIe ou XVIIe siècle, durant les colonisations, avec ces forts de frontières, avec quelques agglomérations à palissades en rondins, et puis les Indiens dehors qui constituent quand même un danger. Là, ce n'est pas des Indiens, c'est des robots qui s'habillent un peu comme des Indiens aussi, qui sont aussi dangereux, aussi mystérieux, qu'on a de la peine à comprendre, qui ont presque une figure magique. Ils les appellent les Diasols, c'est des diables du sol. Il y a une espèce de mythologie qui tourne autour d'eux. Et donc, à la fête du printemps, les gens se réunissent autour d'une cité locale, qui est au sommet d'un piton rocheux, qui s'appelle Méandre, qui est dans le méandre d'une rivière. Et bah, tout le monde un peu se donne rendez-vous là, tous les marchands, tous les trappeurs qui viennent avec les produits de leur saison pour échanger. Et puis, c'est un gros carnaval, quoi, de prostitution, de nourriture, de boissons, d'échanges verbaux. Les gens communiquent beaucoup, parce que c'est le moment où on parle en véhicule d'information, alors qu'on était chacun dans ces coins de la forêt. C'est là qu'on commence à savoir ce qui se passe. Et là, ben, les choses passent pas super bien, parce qu'il y a un raid qui est mené par par des gens qui vivent pas loin, dans des grottes, et puis qui décident d'enlever les femmes. Et après, on va, je ne sais pas si ça risque de spoiler pas mal.
Peut-être tu peux nous parler de la guerre qui se prépare.
Oui, alors forcément, les deux communautés sont en opposition, et puis Méandre décide de récupérer ses femmes et engage massivement des mercenaires, des gens qui savent se battre simplement. Et là, il y a une montée en tension entre ces deux communautés, mais à ce moment-là, qui est plus en toile de fond, pour laisser la place aux différents récits, qui se déroulent très tranquillement d'ailleurs. Et la guerre, elle semble inévitable, mais j'ai peur de trop en dire.
Il y a un mélange d'à la fois d'éléments très naturels, tu disais les forêts du Québec au 16e, 17e, et d'éléments technologiques forts. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Ah ben moi j'adore ces décalages, j'adore ces vertiges, c'est aussi ce que permet un récit post-apocalyptique, c'est cette tension entre le futur très lointain et la mémoire, un passé qui est devenu mythologique, un passé qu'on peine à se dire, à se raconter. C'est cette idée de la transmission du savoir qui se perd, qui devient mythe. Et il y a ça qui se joue aussi dans la nature vivante qui reprend ses droits du temps qui passe, une nature foisonnante qui est presque immuable, quoi, qui prend finalement toujours le dessus. Et puis, même tension avec toutes les factures technologiques, les robots, les technologies qu'on continue à utiliser et qui, elles, portent la mémoire de l'être humain, les traces de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a fait, et l'artificiel et le naturel, le rapport au corps. Enfin, il y a plein de thématiques, pour moi, très fortes. Et on m'a attiré mon attention hier soir sur un autre aspect que je n'avais pas du tout vu et... qui montre que ça fonctionne bien, c'est au niveau des sons. On me disait, oui, y a le bruit des pas dans la neige, il y a le bruissement des feuilles dans les arbres, et en parallèle, il y a les grésillements des machines, des robots, les bourdonnements, les cliquetis technologiques, et ça joue un peu au niveau de toutes les perceptions.
C'est un roman étouffé, entre guillemets, en termes de sons, avec la neige, etc.
Je crois pas étouffé, non. Mais sensoriel, au contraire. Ou ce qu'on entend, on l'entend bien. Ou qu'on sent.
Jusqu'ici, tu avais fait que des nouvelles. D'abord, pourquoi avoir voulu passer au roman pourquoi, et surtout, comment tu as travaillé? Est-ce que c'est le même travail ou tu as travaillé différemment?
Ok, moi j'avais commencé avec des tentatives de roman. Il y a des années, un chapitre, puis ça a déjà été fait. Hop, les deux chapitres, il a mieux fait. Bon, et après, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'écrire un roman, mais j'écris pas super bien, donc il faut que j'apprenne à écrire. Et donc, il y a eu pour moi une phase d'apprentissage importante qui s'est faite à travers la nouvelle, où il s'agissait de s'approprier les mots, l'art de raconter des histoires, la narration, et l'espoir de voir émerger un style, une patte qui me serait peut-être propre. Et donc j'ai pu pratiquer le texte avec des nouvelles. C'est un espace qui permet beaucoup de choses. On peut se planter, c'est pas grave, on se plante sur 20 pages, il n'y a pas de problème. On se plante sur 250 pages, c'est un peu plus ennuyeux. Donc je me suis dit que j'allais essayer des choses, et pas forcément des grandes idées, mais essayer des choses formelles pour voir, pour apprendre, pour démonter, pour essayer des trucs. Et quand j'ai senti que je me sentais un peu plus sûr de moi, je suis passé au roman enfin. Du coup, c'est drôle parce que en quelques années, je me suis un peu inhibé par rapport à la forme longue, puis habitué à faire plutôt des récits courts. Et c'est pas du tout la même structure. Et au début, j'étais complètement frénétique sur le nombre de signes par jour écrit. Ah ouais, ça demande 200 000 signes. Je vais arriver à. Puis en fait, c'est un peu ridicule, mais c'était ma manière de passer de la forme courte à la forme longue. Et maintenant, j'adore ça. Et en fait, ça coule naturellement. C'est pas du tout le même rapport parce qu'on a l'espace de s'arrêter sur une scène, sur un personnage, sur une émotion, sur un détail, et de le pousser, de le mettre en avant, de révéler le rapport qu'on a au monde à travers une petite chose qui nous révèle soi-même, qui nous révèle notre rapport aux autres. Et ça, sur une nouvelle, c'est quand même super dur.
Et le fait d'avoir fait deux BD, ça a aussi compté dans l'apprentissage de l'écriture?
Surtout des scénarios. Les BD, c'était plutôt des planches courtes. Là, les projets longs, ils sont plutôt à venir. Je pense que ça m'a aidé pour le scénario. J'aurais peut-être pas forcément détailler le scénario autant avant. Et c'est valable pour ce qui va suivre d'ailleurs. Même si là, mon deuxième projet se passe complètement de scénario. Mais oui, je pense que ça aide de toute manière, dans tous les cas.
Alors, pourquoi avoir choisi de l'envoyer à la Talente? Comment ça s'est passé éditorialement parlant? Tu as choisi la Talente ou tu as envoyé à différentes maisons d'édition et puis c'est eux qui ont été les plus intéressés?
C'est le hasard des rencontres parce qu'en 2006, dans ce même festival ici, Utopial, j'ai eu la chance d'avoir un texte qui était publié dans le recueil du festival. À l'époque, c'était la Talente qui publiait ses recueils et le responsable,
Bruno Della
c'était Bruno Della Chiesa. Ouais. Moi, j'avais un peu collaboré les années avant avec l'équipe de Patrick Guiguer sur l'organisation du festival, comme fait Antoine Mottier, qu'on a vu passer. Et préparer table ronde et chercher les gens à l'aéroport. Enfin, c'est un travail super enrichissant mais super fatigant. Bravo Antoine. Et d'animer des tables rondes aussi. Donc j'ai eu l'occasion de faire ça pendant 2 ans. Ben là, forcément, j'espérais. Enfin, j'avais pas double casquette. Et quand Patrick a passé la main et puis que c'était une autre équipe, je me suis senti libre d'envoyer mes textes à l'anthologiste, que d'ailleurs je ne connaissais pas du tout. Donc, y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de copinage. C'était juste, il faisait ça à distance. On m'a dit, ah oui, c'est lui qui fait les anthos. Je dis, ok, bah, je me sens libre d'envoyer ce texte, puis on verra bien, quoi. Puis il a apprécié, et donc il a publié Fractal en 2006. Du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir un premier contact avec la Talente qui m'avait dit, ah bah si un jour vous faites un texte long, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Alors 2 ans plus tard, c'est naturellement que je leur ai proposé. Et puis, ça a encore pris un an pour que le contrat soit signé et puis que les choses se fassent. Du coup, j'ai eu de la chance. Hein, c'était le premier éditeur auquel j'ai proposé et puis il a été accepté tout de suite.
Et puis finalement, il y a 2 prix avec.
Ouais,
Et
c'est
pas
vraiment
bonne critique.
surprenant, mais c'est chouette. Mais c'est étonnant.
On va juste balayer 2, 3 autres aspects, notamment Dimension Suisse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aventure de cette anthologie? Alors là, pour le coup, tu n'étais plus auteur, mais anthologiste.
Oui, au tout début, c'était François Rouillet qui est ici, en première ligne, qui avait débloqué ce projet. Tu voudrais dire un mot là-dessus ou non? Qui avait l'idée de peut-être à l'époque, avec une revue qui n'existe plus maintenant, de faire un numéro spécial sur la Suisse. Puis l'idée a évolué, et puis pour diverses raisons, il n'a pas pu amener à bien le projet. Et puis moi, je m'étais proposé de le reprendre. Pour le coup, Anthony Valla, qui est pas là, qui était, ouais, il a bien fêté hier aussi. Il m'a téléphoné et m'a dit, ah ouais, j'ai appris que tu voulais reprendre ce projet-là, ça te dit qu'on le fasse ensemble. En fait, c'était une très bonne idée parce que c'était un gros travail logistique. Donc, ce qu'on a fait, c'est finalement, on s'est plutôt dirigé vers le format anthologie. On a fait un appel à texte, on a reçu une cinquantaine de textes. Et puis, on s'est dit, bon, bah, si on reçoit, s'il y a assez de textes intéressants, on va voir après pour un éditeur, quoi. Et l'éditeur qui a retenu notre attention, c'était Black Coat Press, notamment ses collections chez Rivière Blanche, cette série de Dimensions, quelque chose. C'est le projet d'explorer, à travers des aires géographiques, culturelles, distinctes, des nouvelles de science-fiction qui se font aujourd'hui avec des auteurs, enfin, pas forcément vivants. Parce qu'il y a sur la Dimension URSS, Dimension Russie, Dimension Latido, etc. Et là, ben, ça permet d'explorer des aires géographiques, de voir est-ce qu'ils ont une science-fiction particulière ou pas. Et là, ça faisait sens. Parce que faire une anthologie sur la SF suisse, pour moi, ça faisait pas forcément sens en dehors d'un projet éditorial. Parce qu'on peut faire une anthologie sur n'importe quoi. Ça aurait... Et là, ça... En plus, il y a eu Jean-François Thomas qui a sorti une anthologie historique de textes de science-fiction suisse, qui a fait tout un travail qu'il a appelé à juste titre Défricheur d'imaginaire, qui est paru chez Campiche. Et là, bah, on avait le pendant aujourd'hui. Donc ça tombait vraiment très bien. Et c'était vraiment, pour moi, légitimé par ces 2 instances-là. Une anthologie historique, aujourd'hui on présente ce qui se fait, et puis le projet éditorial. Et donc là, après, c'était tout un travail de lecture, de travailler après avec chaque auteur, voilà, faire tout un feedback littéraire. J'étais un peu pénible. Il y a certains des auteurs qui sont là. Daniel Aladef, là, Il y avait Laurence Thuner, mais elle n'est pas là. Donc, il y en a quelques-uns qui ont fait le déplacement de la Suisse parce qu'ils aiment bien les utopiales. Et bah, j'espère qu'ils n'étaient pas trop fâchés parce que je les ai beaucoup embêtés.
Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, toi, dans ton écriture, le fait de justement avoir été anthologiste pour cette anto et de travailler sur les textes des autres?
Ah, c'est sûr. Moi, j'adore ça. J'aime bien aussi faire de temps en temps des ateliers littéraires. Ça rafraîchit, ça oblige à rester en alerte. Bah, déjà, quand on lit, on n'a plus le même regard. On a un regard très professionnel, critique, où on déconstruit le texte, où des fois, c'est dur de se laisser emporter parce qu'on... Maintenant, on analyse beaucoup. Moi, j'analyse beaucoup les textes que je lis, surtout si je les lis en langue originale, en français. Et là, je suis sensible à la construction, etc., comment il a fait, à la technique. Et ça peut parasiter la lecture. Alors, quand on est ouvertement, on fait ce travail, c'est super. On peut décortiquer le texte, aller au bout de la cohérence du projet de chaque auteur, pas essayer de surimposer ses propres envies d'écrivain, mais au contraire, essayer de voir qu'est-ce qu'il a essayé de faire et comment on peut l'accompagner pour aller au bout de sa propre cohérence. Et moi, je trouve ça super. Oui, ça m'apporte énormément parce qu'on voit toutes sortes de tics qu'on ne voit pas sur sa propre écriture et après, on en bénéficie directement.
Signy, ça a bénéficié d'une dimension suisse?
Non, pas du tout. Parce qu'il est écrit avant que je commence à travailler sur ce projet. Et les phases de correction, elles se sont peut-être faites un peu en parallèle. Peut-être que sur la fin, dans les dernières corrections, j'étais peut-être attentif à un ou deux trucs un peu différents, mais je crois pas. Ça va plutôt bénéficier au texte à venir.
On va en parler du texte à venir. Juste avant, je voudrais qu'on parle d'une nouvelle qui s'appelle Miroir du ciel et qui a été publiée dans le recueil de cette année des Utopiales, Utopiales 2010. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle?
Oui, alors je peux en parler. Je l'avais déjà fait d'ailleurs pour votre site ActuSF, sous forme d'une petite interview en ligne. Et c'était un texte qui était assez vieux, que j'avais écrit à l'époque où justement j'envisageais la nouvelle comme ce laboratoire d'écriture qu'on a évoqué tout à l'heure. Et j'aimais bien ce texte, il y avait un truc qui crochait bien pour moi, surtout dans la première partie. La deuxième partie, j'ai trouvé vraiment moins bien et laborieuse, puis le style était laborieux, et puis je vais laisser tomber finalement ce texte. Je l'avais mis dans les tiroirs. Et là, le thème de la frontière et la proposition d'ActuSF de proposer une nouvelle a réactivé cette envie de cette nouvelle. Et donc là, je l'ai reprise, je l'ai relue, et puis j'étais horrifié. Elle était très longue, elle faisait 100 000 signes. Et donc je l'ai reprise à bras-le-corps, elle est écrite au passé, je l'ai remise au présent. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de coquilles qui restent de cette transformation. Et là, j'ai retravaillé aussi tout le style. Et puis, j'ai pu voir aussi la différence de tout ce que j'ai appris il y a 5, 6, peut-être même 7 ans et aujourd'hui. Et de voir qu'on progresse vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et j'étais super content de la pousser, de pousser sa logique jusqu'au bout, de retravailler les idées, de retravailler aussi la construction. Et là, je me suis senti beaucoup plus à même et armé, plus outillé, simplement, pour l'amener à son terme.
Pour simplement l'évoquer, et ça nous permettra de revenir sur Signy, c'est l'histoire d'un inspecteur qui va être enlevé dans une zone de conflit, qui va devoir apprendre à vivre avec les populations locales. On sent qu'il y a quelque chose de très actuel, parfois aussi un petit peu dans Signy. Est-ce que tu as envie aussi de que ta science-fiction parle du présent?
J'ai toujours envie qu'elle parle du présent. Alors là, il se trouve que c'était un peu plus politique, enfin ethnopolitique. Parce qu'à l'époque, c'était durant la seconde invasion de l'Irak, ou la troisième, par les troupes américaines. Et puis il y avait cet inspecteur de l'ONU, Hans Blix, qui avait eu, vous savez, très bien tous ces déboires avec les armes de destruction massive. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Hans, aussi, le personnage. Et puis qui travaille alors c'est l'Organisation des Mondes Unis, c'est plus les Nations Unies. Et puis on a des sables, mais c'est pas des Irakiens. Et puis on a une fédération. Donc il y a vraiment c'est peut-être un peu facile ce transfert, mais j'avais vraiment envie de métaphoriser ce problème-là dans le domaine de la science-fiction et de voir finalement comment peut s'opérer la rencontre. Comment serait finalement pas la bonne manière d'opérer, mais une manière de comprendre l'autre. Et pour comprendre l'autre, bah, y a pas 36 000 manières, il faut vivre avec lui. Donc il se fait enlever et on l'oblige à vivre suivant les us et coutumes du peuple argaï, en l'occurrence.
C'est pareil pour Cygnus, t'as pris des éléments d'actualité qui t'ont interpellé?
Pas du tout. Alors là, je voulais justement pas du tout avoir des éléments d'actualité politique, mais l'actualité intérieure de chacun. Je me souviens, j'avais un prof de latin à l'époque qui me disait voilà, que la nature humaine n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On met des couches culturelles, on change, c'est vrai, même nos rapports aux émotions évoluent, c'est toujours très culturel, mais on reste des êtres humains et je ne suis pas sûr que la rage que je puisse ressentir aujourd'hui ou que la rage que ressent un Romain il y a 2000 ans soit si différente. Pareil pour l'amour, pareil pour le mépris, pareil pour toutes les émotions, tout le spectre des émotions humaines. Après, on vectorise ça différemment avec la culture, on systémise. Mais moi, ce que j'appelle la nature humaine, cette espèce d'invariant qui fait qu'on a ben, deux yeux, un nez, une bouche, un fonctionnement émotionnel, des envies, des désirs, des rêves, ben, c'est le ressenti, ben, il ne va pas changer, quoi, ni d'une personne à l'autre, ni dans le temps, globalement. Et j'avais envie de toucher cette forme-là d'actualité.
Petite question, tu as commencé à y répondre tout à l'heure sur l'après-écriture. Alors d'abord, qu'est-ce que ça fait d'avoir son roman pour la première fois dans les mains?
Il y a différentes étapes parce qu'il y a le roman, il y a le bon à tirer dès qu'on reçoit qui fait bizarre quand même avec la mise en page de l'éditeur. Quelle étape avant de voir le livre fini? Je connaissais très bien la couve puisque j'ai été associé au processus de couve aussi avec Yoz, c'est moi qui ai proposé cet illustrateur à l'éditeur et puis on a fait tout un ping-pong pour l'élaborer où on fait une espèce de direction artistique sur le projet de couve donc j'avais tous les éléments en main et puis après à la fin on reçoit le bouquin par la poste et puis ben, c'est traumatisant dans le bon sens.
Et surtout l'après, parce qu'il y a eu pas mal d'interviews, de critiques, puis aujourd'hui des rencontres, deux prix, etc. Tu disais que c'était de l'énergie positive. Comment toi tu l'as ressenti? D'un seul coup, le roman que tu as porté devient public.
Ouais, c'est vraiment bizarre. Je pense que je manque de recul pour l'instant, c'est beaucoup trop vite et en même temps, donc je vais prendre le temps de digérer ça à Noël, puis à Nouvel An. Et puis bon, on verra l'année prochaine, mais je peux déjà dire maintenant que c'est vraiment une énergie positive. Enfin, peut-être pas après les soirées de fête qu'on a fait ce soir, mais ça se voit peut-être pas forcément. Mais ces marques de reconnaissance qu'on montre qu'on croit en son travail, ben, ça donne une très grande confiance. On se dit, bon voilà, je peux tracer ma route, je peux faire quelque chose de très personnel, ça peut être aimé, on peut être aimé pour ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc ça pousse à avoir envie d'essayer plein de trucs, peut-être des trucs cons aussi, peut-être enfin, d'essayer d'aller là où on ne nous attend pas forcément, ou là où je ne m'attends pas moi-même.
Et alors justement, parle-nous de ce projet que tu es en train d'écrire, de ce deuxième roman.
Ouais, je remarque que je commence à en parler parce qu'on me pose la question, donc il y a eu des choses qui ont été mises par écrit, et puis j'en parle un petit peu, j'aurais peut-être rien dû dire parce que je ne sais même pas s'il va être publié. Quoi. Je veux dire, je ne veux pas non plus susciter une attente qui servirait à rien, ça serait un peu dommage. Mais bon, ben là, c'est trop tard, donc je vais en parler, mais il faut bien garder à l'esprit que ça restera dans un fond de tiroir et puis que peut-être il y aura d'autres projets. Donc celui-ci, ce qui m'amusait de faire, parce que c'était à l'époque où je ne savais pas si Cygnus serait publié, je l'envoyais à l'éditeur. Bon, puis maintenant, je fais quoi? J'ai fini ce premier projet, voilà. Bon, ben, je vais me mettre devant mon ordinateur. Puis il y a un truc complètement con qui commence à venir, puis je fais lire à Sandrine, puis elle se marre, puis le lendemain, bah, je continue, je fais pareil, puis deux semaines plus tard, j'étais encore en train chaque soir d'écrire mon truc, puis ça prenait de l'ampleur. Et je voulais vraiment explorer le contraire de Cygnus, c'est-à-dire une écriture qui ne soit pas stylisée, mais qui soit efficace, qui sert l'histoire, qui s'efface, un style qui s'efface pour laisser l'histoire être là, et les personnages être là. Des personnages qui soient des gueules, une galerie de portraits qui m'amusent. Et puis l'histoire, alors il n'y avait aucun scénario, mais elle s'élabore, elle s'est élaborée, puis il y a un propos très cohérent qui est venu. Donc il y a vraiment une espèce de part d'expérience littéraire pour moi, d'écriture automatique qui s'est transformée en propos cohérent. Et pour l'instant, je trouve que ça fonctionne. Il faut juste que je trouve une fin. Mais ça marche. Et là, bon, j'arrive gentiment au bout. Ah, je dis juste au revoir aux Suisses qui vont prendre l'avion. Salut!
Au revoir les Suisses.
Ciao. Et donc, ce qui m'a guidé tout au long de l'écriture, et puis ce que j'espère que je vais garder comme fil conducteur jusqu'à la fin de ce bouquin-là, ah ben, c'est Anthony Valla, justement, viens me dire bonjour, qui est le partenaire de Dimension Suisse.
Bonjour voilà. Anthony.
Bonjour. J'ai été très heureux de travailler avec Vincent sur ce projet qui a là aussi fait montre de son talent. Voilà.
Merci.
Bon vol.
Bon retour.
Oui, et donc tu nous parlais du nouveau projet et tu ne nous as pas encore dit de quoi ça parlait.
Je vous prépare psychologiquement parce que. Ou je me prépare psychologiquement. De quoi ça parle. Les thématiques qui sont venues, c'est des thématiques liées à la mémoire, liées à l'identité, à la transformation du corps, toujours. Mais ce qui va pas plaire, probablement, et puis moi qui m'amuse énormément, c'est de jouer sur les systèmes de référence. Et donc, il y a beaucoup de personnages qui sont des sosies, de personnages qu'on trouve aujourd'hui. Mais c'est pas du tout pensé, et c'est complètement gratuit. C'est pour ça qu'il y a Lambert Wilson, qui fait partie des assassins philosophes, qui oublie ses contrats dès qu'il a tué la personne, et donc pour préserver une partie de sa mémoire, il y a une partie de son esprit à créer Matsuo Basho, qui est le créateur des haïkus, qui s'exprime en haïku, mais qui lui donne jamais vraiment des infos sur ce qui se passe. Il y a Paulo Coelho qui est trafiquant d'organes, il y a un Jésus de Nazareth, un ancien vétérinaire, et puis son traducteur de l'araméen vers les autres langues, c'est Gary Coleman, de Arnold et Willy. C'est n'importe quoi. Mais je m'éclate, et puis il y a des concerts aussi, il y a des gens qui boivent des coups, il y a des voilà, il y a des gangs qui s'affrontent aussi, il y a des figures légendaires des gangs, et puis voilà, puis un personnage comme ça qui n'est pas un sosie, qui traverse cette histoire, et ça va dans tous les sens, ça flingue tout le temps, c'est une espèce de gros Tarantino sous acide, enfin ça n'a vraiment rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant. Là l'idée c'était vraiment de partir sur un délire et vraiment un sentiment de jubilation, d'être guidé du début à la fin par un sentiment de jubilation. Et je ne veux pas écrire une ligne si je ne me sens pas dans cet état d'excitation, j'écris puis non, tu vas pas faire ça, oui, et puis d'y aller... Et puis de se faire plaisir de façon complètement gratuite. Alors je pense qu'un éditeur, ça ne va pas forcément lui plaire, parce qu'il n'y a pas un grand projet romanesque, une grande idée, du beau style. Non, j'ai fait ma petite catharsis, et puis on verra après.
Est-ce que, et il nous reste quelques minutes ensemble, est-ce que quelqu'un aurait une question à lui poser, ou peut-être une réflexion simplement sur Cygnis ou un autre texte ? N'hésitez pas. Oui, là-bas.
Je voulais juste savoir, concernant Cygnis, justement, au niveau de ta structure narrative, de ton chapitrage, tu as des citations latines, ou dans un langage qui apparaissent à chaque fois, et on a l'impression d'assister à un opéra. Je voulais savoir si c'était vrai ou c'était qu'une impression.
Ouais, bien vu. C'est vrai, les en-têtes de chapitres sont tous en latin. En général, on a latin médiéval, sauf un qui est en latin médiéval. Et ce que je voulais amener comme trace par là, c'est une clé de lecture qui allait normalement avec les citations aussi. Les citations, par une erreur d'impression, se retrouvent à la fin. Et dans les citations, il y a des références à trois textes. Le premier, c'est le chant de la Sibylle, qui est une très vieille messe du Moyen-Âge qui porte des récits post-apocalyptiques déjà, enfin apocalyptiques pour le coup. Une référence à un chant de la Grande Dépression des années 30. Et puis un extrait du Requiem de Akira, le dessin animé, qui a, lui, une thématique complètement post-apocalyptique. Et j'ai envie d'avoir trois moments comme ça dans notre culture qui montrent l'ellipse, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver au monde dans lequel se déroule l'histoire. Et pour ça, c'est une des clés. Et la deuxième clé, c'était, vu que moi j'avais fait tout ce travail de convoquer des mythes, des récits et des références dans le texte, sans que ça se voit forcément, j'avais envie de le montrer dans les... dans les entêtes de chapitres, dans les titres de chapitres. Donc ils sont tous en latin, ils ont tous un rapport avec le contenu de l'histoire, et je les voyais aussi comme des clés de lecture pour débusquer les métaphores. Et alors, pour le coup, le livre se finit sur Acta Est Fabula, donc l'histoire, c'est ce qu'on dit quand au théâtre, la pièce est terminée. Et c'est vrai que le toute origine du projet, c'est ce qui doit rester de ça. J'avais envie de faire un travail sur les enfers et sur toutes les mythologies des enfers. Et forcément, ça passait par tous les opéras. Et j'ai écouté beaucoup de Requiem en écrivant ça, beaucoup d'airs d'opéra notamment. Et je pense que c'est une trace de ça qui reste. Ça répond à ta question ?
Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Dites-moi. Bon, est-ce que Vincent Gessler est un auteur et un homme heureux après deux prix le 14 novembre?
Ah bah oui, hein, ça serait malhonnête de te dire non. Et puis, en plus, je suis très fatigué. On a bien fêté ça. Et puis maintenant, merci à tous. Et puis merci pour ces moments. Non, je suis vraiment hyper content. Ouais, ouais, c'est clair.
Bon, on va te laisser aller te reposer. Si vous restez là.
J'ai plein de bouquins d'Actu SF à signer, malheureusement.
Exactement, pour l'anthologie ouais. Utopia 2010. C'est bon aussi, mangez-en, et c'est comme Cygnis. Tout de suite, une rencontre avec Scott Westerfeld sur l'autre scène. Et puis, moi aussi, je suis fatigué aujourd'hui. Des dédicaces, plein de dédicaces à partir de tout de suite maintenant avec Xavier Omeja, Karina Rosenfeld, Hugo Bellagamba. Il n'y a pas Hugo Bellagamba, mais Gérard Klein, Ian McDonald et Peter Watts. Merci à vous.
Merci.